Bonjour à toutes et à tous. Je suis Thibaut Brunet, aujourd'hui accompagné de Marceau Truffaut, et vous écoutez un nouvel épisode de Sans Titre. Sans Titre est né de l'envie de partager la vie réelle des créateurs et des créatrices. Pour cela, Marceau et moi rencontrons des artistes et leur demandons simplement de raconter ce métier, avec ses réalités et ses défis, loin du romantisme que l'on peut s'en faire. Notre objectif ici est de vous donner une meilleure compréhension de la vie d'artiste, de ce qui se cache derrière une œuvre d'art, mettre en avant la condition des créateurs et des créatrices d'aujourd'hui. Sans Titre est disponible en podcast sur Spotify et toutes les bonnes plateformes. Bonne écoute.
On reçoit aujourd'hui David Gaz. David, bonjour.
Bonjour.
Alors si tu veux bien, je vais commencer par te présenter rapidement et puis je te laisse le soin de compléter et de corriger ce que je vais dire. Donc, David, tu as un profil double d'ingénieur et d'artiste. Dès les années 90, tu t'intéresses à l'informatique, au numérique, et tu investis Internet comme un terrain et médium artistique. Ton travail protéiforme mêle expérience, dispositifs technologiques et objets qui interrogent les relations physiques et numériques. Les notions de lien, de public, de mémoire et de transmission sont au cœur de tes créations. Ton travail est depuis une trentaine d'années présenté à travers de nombreuses expositions, résidences et publications internationales. Déjà, est-ce que tu es d'accord à peu près avec
cette mise en situation?
Ouais. Je te propose qu'on commence par revenir un peu sur tes études et si tu peux nous raconter comment ce que tu as fait comme études et comment la création et le domaine artistique s'est inséré dans une formation peut-être plus technique au début, je sais pas.
Bah, alors c'est un peu étrange parce que moi je suis vraiment un geek au sens propre, c'est-à-dire que j'ai vraiment commencé par faire des études d'informatique. Mm-hmm. Et ça m'a toujours passionné depuis que j'étais adolescent. Donc pour moi j'étais parti pour être ingénieur hacker, enfin voilà. Donc ouais. J'ai suivi la voie classique de l'université en informatique donc, et je me suis spécialisé. À l'époque déjà il y avait des modules d'intelligence artificielle, donc c'est surtout ça qui me passionnait. Je voulais plutôt faire de la recherche dans l'intelligence artificielle, donc voilà. Et alors très étrangement j'ai commencé à travailler et j'ai détesté ça.
Dans
l'entreprise.
D'accord.
Donc j'ai assez vite monté mon entreprise pour être complètement indépendant de l'entreprise au sens propre, c'est-à-dire de la hiérarchie, ouais. De tout ça. Donc je suis devenu indépendant, j'ai commencé à travailler en tant qu'indépendant. Et assez vite, alors que j'adorais l'informatique, j'ai vraiment détesté le monde du travail. Donc vers 23 ans, ça a commencé à me titiller, à me dire il y a un truc qui va pas. J'adore le métier, mais je déteste le monde du travail. Et bizarrement, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a fait prendre des cours à la ville de Paris de sculpture. Qui m'a donné l'envie de prendre des cours de sculpture. Donc je suis vraiment ville de Paris, place Monge, cours de sculpture. Et là, j'ai rencontré une professeure qui m'a fait découvrir tout un monde que je ne connaissais pas du tout, parce que je suis vraiment the scientifique, quoi. J'étais pas du tout littéraire, art, etc. Et j'ai commencé à faire des sculptures dans ma cuisine, dans mon petit studio, et c'est devenu une passion. Et là, j'ai rencontré une fille qui vivait en Hollande, dont je suis tombé amoureux, et qui est rentrée à la Rietveld Academy. Enfin, je vous résume, hein, parce que voilà. Mais et en gros, je me suis dit allez banco, j'ai tout largué à Paris. J'avais fait des économies grâce à mes salaires d'ingénieur, ouais. Et je suis parti vivre en Hollande. Et j'ai commencé la peinture, la sculpture, en prenant des cours à la Rietveld Academy.
D'accord.
Donc, ah ouais. C'est vraiment un parcours étrange.
Et puis surtout, il n'y a pas encore de passerelle entre ton univers numérique, hacking, techno et le secteur un peu culturel, artistique. On est vraiment sur un retour aux basiques.
Bah, surtout qu'à l'époque, il n'y avait pas Internet. C'est les années 90, 92, il n'y avait pas encore Internet, quoi. Donc j'ai fait de la peinture, de la sculpture, et au bout de 2-3 ans, je suis rentré en France avec mes tableaux sous les bras, et je me suis retrouvé chez mes parents, dans ma chambre d'enfance, à me dire « bon, maintenant je fais quoi ?» Parce que je n'avais plus un rond. J'avais aucun réseau en France. En fait, je sortais pas des Beaux-Arts de Paris ou de ou même aucun Beaux-Arts de France. C'était voilà, c'était Amsterdam et je ne connaissais absolument personne. Donc j'ai continué à faire de la peinture 2-3 ans. Alors pour l'anecdote quand même, ce qui est assez drôle, c'est que j'ai exposé dans les cafés qui sont à côté du centre Pompidou. Vous savez là l'étoile qu'on voit, c'est bon. Voilà, et j'ai mis 20 ans à faire 100 mètres en fait. Mais voilà, donc c'est assez comique. Et effectivement, là, Internet commençait à arriver 95, 96, l'Internet public hein, avec les modems, voilà, etc., etc. Et là, j'ai commencé à me dire, bon, je suis passé au conceptuel, après à la théorie, plus, etc. Et je me suis dit, bon, la peinture, honnêtement, j'ai fait le tour de mon point de vue, 3-4 ans à peindre, c'est pas mon médium. J'ai adoré le faire, voilà. Et j'ai tout arrêté à un moment en me disant, maintenant, je vais faire que de l'art conceptuel. Que des procédures. Enfin, voilà, je suis revenu un peu dans l'idée plus de l'informatique entre guillemets, sans qu'il y ait encore vraiment. Alors, je voyais Internet, je me dis j'ai des trucs à faire avec ça, mais c'était pas encore clair, quoi. Et ce qui s'est passé en 96, il y a un lieu qui a ouvert à Paris qui s'appelait le Web Bar. Je sais pas si bon, vous connaissez pas vous. C'est... Bon, en gros, c'était un café au niveau du temple là. Dont le propriétaire était très ouvert aux expérimentations techno, quoi. Et il a carrément ouvert une galerie à l'intérieur de ce café, qui était un café assez hallucinant avec une grande rotonde au milieu. Et là, les premiers artistes qui commençaient à travailler avec Internet, avec les nouvelles technologies, avec les questions des nouvelles technologies, tout le monde est passé par là, quoi. Toute ma génération d'artistes, on est donc les premiers à faire vraiment de l'art numérique. Je parle pas des artistes des années... post-vidéo qui avait expérimenté avec des pixels, des trucs. Nous, voilà, nous, c'est vraiment Internet, quoi. On arrive avec Internet. Et ce lieu a été un peu la factory du numérique à Paris pendant plusieurs années. Il était dirigé, enfin, en tout cas, l'art était dirigé par une fille avec qui je travaille encore, qui s'appelle Anne Rocchini, qui était la curatrice, quoi, qui faisait les expos. Et là, j'ai commencé à présenter des œuvres qui commençaient à questionner le réseau, mais toujours art plastique, quoi.
Ouais.
Donc je faisais des process d'images, j'allais chercher des images sur Internet que je projetais sur des objets et ces objets étaient irradiés par Internet. Donc je faisais des objets Internet. Voilà. Donc j'ai commencé à aller chercher le réseau que je mettais dans l'art plastique là, pour le coup. Voilà. Et ça a été mes premières expériences en fait. Voilà. Et c'est à partir de ce moment-là où j'ai commencé vraiment à entrer un peu en scène entre guillemets. À plus exposer dans les restos, dans les trucs, les collectifs, les petits collectifs, les squats, les trucs, mais à trouver un peu vraiment mon médium, ma matière. Et là, j'étais comme un poisson dans l'eau, puisque c'était complètement... voilà, je faisais enfin la fusion des deux, quoi, en fait.
D'accord.
Voilà.
Donc, tes études t'ont absolument pas préparé, ni de près ni de loin, à comment on développe ce travail-là après, quoi. Je veux dire, comment on le fait exister, comment on le fait rencontrer des gens, comment on le diffuse, etc. Tout ça, c'est quelque chose qui s'est fait à t'entendre, en fait, de rebond en rebond, de connaissances, d'accompagnement, de manière assez libre.
Bah, disons que...
T'avais pas de plan, quoi, directement.
J'avais pas de plan de carrière, non. C'est-à-dire que j'ai eu la chance, je pense, d'être dans la dizaine d'artistes qui commençaient à travailler avec Internet. Donc c'était voilà, c'était assez nouveau. Il y avait beaucoup de curiosité de la part des journalistes, de la part du monde de l'art moins et plus compliqué. Ça c'est quand même intéressant, c'est-à-dire que l'époque 96-2000, on était un peu des ovnis, hein. C'est-à-dire que moi j'allais au ministère de la Culture avec des projets pour essayer d'être financé donc en art plastique parce qu'il n'y avait pas encore les bourses d'art numérique, etc. On dit, ah, c'est génial, on comprend rien. Enfin, c'est une génération, c'est-à-dire que, à l'époque, j'avais 25-30 ans, j'étais face à une génération qui connaissait le Minitel et encore, quoi. Donc, il y avait un vrai, voilà. Donc, c'était intéressant parce que, à l'époque, il y a le Cube qui s'est développé. Enfin, il y a plusieurs lieux qui existent toujours, qui sont développés. Il n'y avait pas encore beaucoup de festivals. Il y en avait un peu plus à l'étranger. Mais la scène française était assez réduite. Et on se connaissait tous et on essayait un peu d'inventer aussi des sortes de collectifs comme ça pour discuter, pour échanger, mais c'est vrai qu'il y avait pas grand chose en France, quoi. Et le milieu artistique français était très réticent à ça, quoi. Et encore aujourd'hui, il y a 2-3 galeries qui traînent, qui traînent à Paris, qui présentent de l'art numérique. Il y en a très peu, en fait. Hein. Voilà, donc,
Là, il y a un, je crois qu'il y a un, il y a un circuit art numérique là, qui vient de se vernir.
Le Marais, là, ouais. Le truc du Marais. Ouais, alors, bon, je ne vais pas critiquer, mais ça, ça fait partie des... J'aime bien critiquer. oui, non, mais effectivement, c'est quand même une bonne initiative. Mais voilà, ça, il y a. Alors, effectivement, maintenant, il y a quelques galeries qui commencent à montrer de l'art numérique.
La galerie Charlot.
Notamment la galerie Charlot depuis quelques années. Un certain type d'art numérique. Il y a d'autres galeries. Alors là, ils se mettent un peu en réseau. Ils essaient de. Effectivement, c'est plus du marketing, hein, mais c'est, voilà, c'est une façon un peu de montrer que l'art numérique existe. Mais moi, qui suis depuis 30 ans, j'ai vu ça des dizaines de fois. qui sont pas spécialement faits par des gens sérieux, quoi. C'est-à-dire que, en fait, les institutions, il y a pas de vraie critique d'art. On passe un peu du coq à l'âne, mais c'est pour vous poser les problématiques un peu de l'art numérique. C'est-à-dire que, dans les années 2000, il y avait pas du tout de critique d'art qui prenait l'option art numérique. En tout cas, qui questionnait les artistes, qui essayait d'en faire un vrai médium comme la vidéo a pu l'être, enfin des choses comme ça. Donc on a tous été un peu, on était tous un peu satellisés. Il y a que les médias qui parlaient. Moi j'ai un nombre innombrable, j'ai une quantité d'articles Libé, Le Monde, Télérama, etc. qui eux sont venus, nous ont questionnés, étaient curieux et ça. Mais critique d'art zéro quoi. En tout cas en France, hein, à l'international un peu plus. Donc on est un peu une génération perdue entre guillemets et on a beaucoup ramé et on continue. Les stratégies de chacun ont été différentes et restent différentes. Moi, j'ai toujours considéré que l'art numérique c'est d'abord de l'art et qui doit être intégré à l'art plastique entre guillemets, enfin à l'art contemporain, et que c'est plus des problématiques qu'on développe ou pas dans son art. Donc je pense que les générations d'aujourd'hui qui sortent des beaux-arts, même depuis une dizaine d'années, l'intègrent ou pas dans leur travail sans en faire une spécificité à dire on est des artistes numériques. Bien qu'il y a des artistes qui spécialisent dans la réalité virtuelle, Moi, j'ai pris l'option de dire il y a des sujets qui m'intéressent, il y a des problématiques propres au réseau qui m'intéressent, propres à l'art numérique qui m'intéressent, et je vais les développer avec mes envies, mes problématiques à moi, donc l'espace public, le lien privé, le lien public, les questions de mémoire, de stockage, toutes les problématiques que pose le numérique dans la culture et dans la société. En fait, moi, c'est plus ça qui m'intéressait. Donc je me suis attaqué aux gros médias dans les années 2000, c'est-à-dire j'ai créé des web TV alors que ça n'existait pas en fait. Moi, j'adore. De par ma profession d'ingénieur, j'adore faire des projets qui fonctionnent, en fait.
Ouais.
Donc, c'est pas juste de la symbolique. Donc, quand j'ai créé la première télé sur Internet en 98, qui s'appelait TVR, où je faisais un peu comme vous, c'est-à-dire que je prenais ma caméra, j'allais interviewer des artistes. Et d'ailleurs, il y avait une galerie, là, qui s'appelait la Galerie Publique, où tous les artistes des Beaux-Arts étaient exposés, qui est juste derrière le Centre Pompidou. Et voilà, moi, j'y allais avec ma caméra, je les interviewais, je faisais ma chaîne, je créais une sorte de plateforme, et ça n'existait pas, il n'y avait pas de YouTube, il n'y avait rien. Ensuite, j'ai fait un projet qui s'appelait Téléweb, qui était un YouTube avant l'heure, où toutes les télés françaises, les mini-télés, les télés associatives ont été agrégées sur ce portail-là, et je me retrouvais dans des conférences avec TF1, avec France 2, avec machin, où je défendais le libre, un Internet libre, etc., etc. Et pour moi, c'était génial de me dire, avec un ordinateur dans sa cuisine, un petit logiciel de montage et une caméra à 5-6, on arrive à créer, à être presque en concurrence avec TF1, quoi. Il m'arrivait des trucs assez hallucinants, parce que moi, déjà, je parlais d'open source, de gratuité, d'échange, de choses comme ça, qui sont des valeurs qui sont très compliquées aujourd'hui à trouver sur Internet, et qui l'étaient à l'époque, mais à l'époque, c'était plus ouvert, Internet.
Oui.
Il y avait moins de protocoles, il y avait le HTML, c'est vraiment un langage hyper facile, etc. Maintenant, avec les réseaux sociaux, on est réduit aux applis, jusqu'aux applis où, en fait, tout est fermé, quoi, disons. Et pour moi, c'était super important à l'époque de dire, il y a un Internet, il y a un nouvel espace qui est complètement en friche et il faut que les artistes le prennent. Avec aussi, pour rester dans votre thématique, les moyens de production, les moyens de diffusion. Et c'est ça qui était intéressant, c'est-à-dire qu'aussi on a un nouveau moyen de production et de diffusion qui est le réseau. et on n'a plus besoin de l'institution et on n'a plus besoin des galeries. Pour moi, le modèle de la galerie est tellement has-been, est tellement réducteur. C'est comme si, je sais pas quelle analogie je pourrais faire. C'est comme si on roule tous à l'électrique avec des voitures qui valent plus rien et vous voulez encore rouler avec une Mercedes des années 60 ou voilà. C'est-à-dire qu'il y a, moi, je trouve et je continue à penser que la galerie est un modèle du début du XXe siècle qui est complètement réducteur, qui est une petite pièce de 20 mètres carrés, 30 mètres carrés, qui voilà. Donc non, on a un réseau infini, on a un espace infini, et ce réseau et cet espace doit changer nos comportements aussi par rapport à ce qu'est l'exposition, la diffusion, etc. Voilà.
Pour parler un petit peu de ça, et puis pour parler aussi de la production, parce que vu qu'on parle d'art numérique, et c'est vrai que souvent l'art numérique, quand on regarde la Biennale Nemo, ou même, tu parlais du cube tout à l'heure, il y a quand même une salle de spectacle, et on est quand même sur des, sur des productions de spectacles vivants.
Alors absolument, et c'est vraiment un défaut de mon point de vue, c'est-à-dire qu'il y a un biais qui s'est mis en place avec l'art numérique, c'est que en gros, il y a deux tendances qui sont développées. Il y a le spectacle, enfin, en tout cas, l'image et la production d'images et de spectacle. Et la tendance plutôt conceptuelle, minimaliste, site web, enfin, etc., qui sont deux choses assez différentes, en fait. Le net art, justement, ce n'est pas le spectacle. Enfin, ce qui a été un mouvement, le net art, c'est vraiment, on dit Internet, on utilise Internet, on utilise les outils d'Internet pour transformer les choses. Ce qu'on voit aujourd'hui à Nemo au Cube, c'est, j'ai envie de dire, on pourrait le faire avec des projos limite, quoi. Enfin, c'est ça. Ça reste du spectacle. Mais le spectacle, c'est très bien. Et le spectacle, ça rapporte de l'argent. Voilà. Ce que je voulais dire, c'est que quand on veut rester dans l'idée d'une production, avec du public, avec voilà, des salles, des choses comme ça, on est obligé, entre guillemets, et il y a beaucoup d'artistes qui... Alors, pour moi, c'est un peu le piège du numérique, c'est-à-dire, en 3D, on peut faire des trucs déments en 5 minutes. Il y a beaucoup d'artistes qui sont tombés un peu dans ce piège aussi, sans une réelle réflexion sur le médium, sans une... Voilà. Alors qu'il y a beaucoup de réflexions, il y a beaucoup de problématiques. Et, donc, pour moi, effectivement... L'image et le traitement de l'image via des espaces publics sous couvert du numérique, c'est un peu bidon, quoi. Souvent, je dis pas qu'il y a que des mauvais artistes, et je pense que c'est pas la faute des artistes, c'est la faute du système qui s'est dit tiens, là, on peut aller vers ça parce que là, il y aura du public, il y a des lieux. Alors que l'art numérique, il peut être très intimiste, très minimaliste, très invisible. On parle d'invisibilité, on parle de code binaire, de voilà. Donc, ce qui est vu du grand public, c'est effectivement pas la meilleure partie, je trouve. En tout cas, la plus intéressante conceptuellement et intellectuellement. Voilà. Il y a pas beaucoup d'intellect, quoi. Il y a beaucoup d'esbrouf, beaucoup d'images, beaucoup de trucs qui bougent dans tous les sens, etc. Et alors peut-être qu'après c'est une tendance qui vient de l'art optique, de choses comme de l'art cinétique. Vous voyez, c'est vraiment deux tendances différentes, je pense, mais qui ont des racines différentes en fait aussi.
Mais c'est peut-être aussi une stratégie. Ça, j'aimerais bien que cette classe d'enfants s'en aille. Ils sont là depuis ça s'en peut plus.
Je les vois pas, je les entends pas ça.
Non, mais ils sont en train de se faire engueuler à côté.
Oui. C'est les aléas du direct.
Ouais, mais c'est surtout ceux qu'on a eu à l'aller tout à l'heure.
Ouais, bah oui, mais ils ont fait leur tour.
Du coup, j'ai complètement perdu le fil de ce que je voulais dire. Mais oui, c'est peut-être, enfin, une des raisons pour lesquelles on a commencé ce projet, c'était aussi d'essayer de comprendre le travail de certaines personnes qui avaient peut-être des pièces un peu racoleuses, mais qui, ces pièces racoleuses faisaient une sorte d'appel d'air ou une entrée dans le travail qui faisait que ils pouvaient présenter leurs expérimentations, des choses comme ça. Et peut-être que c'est ça aussi, c'est-à-dire que le festival X ou Y va présenter une pièce un petit peu racoleuse avec un robot qui dab et
c'est exactement ça.
Voilà, mais en même temps ça permet d'ouvrir vers aussi des boulots peut-être plus intimes, plus conceptuellement pertinents.
Je ne crois pas, justement le problème des festivals c'est qu'ils restent à ce niveau-là, quoi. C'est-à-dire que c'est rare de... Après, c'est peut-être des choix... Enfin, moi, je ne vais pas critiquer. C'est des choix de curateur, de... Voilà, c'est-à-dire que j'ai vu des très belles expos d'art numérique qui ne sont pas justement dans ce rapport au spectacle ou au théâtre. Enfin, pourquoi pas après ? Enfin, c'est pas... Moi, je reproche pas ça. Je reproche qu'on ne voit que ça, en fait.
Okay.
Et que c'est pour ça que les galeries sont larguées en plus, parce qu'elles ne font aussi que montrer des choses comme ça, au final. Parce que, bah voilà, les gens comprennent pas trop. C'est compliqué d'expliquer. Moi, j'ai fait des NFT avec des URL, donc ouais, c'est pas très visuel, quoi, c'est sûr. L'URL www.duchamp.art en NFT, moi, ça me fait triper, mais... c'est pas des petits bonhommes avec des punks et des trucs, des machins, quoi. J'ai fait des cryptos il y a 8 ans sur le temps. Bon, ça... Les curateurs d'art numérique comprenaient pas trop le truc il y a 8 ans, quoi, des cryptos, quoi. Par exemple, hein. Donc, c'est-à-dire que, mais non, mais on n'a pas de gens qui réfléchissent dans notre milieu, quoi. C'est terrible. Et dans le milieu art plastique, ils trouvent, c'est un art mineur, limite, quoi. Ils veulent pas le séparer trop de, voilà, quoi. Donc, voilà, après, chacun fait son boulot, et puis, on se débrouille. Enfin, c'est pas qu'on se débrouille, c'est que moi, j'ai réussi. En fait, moi, j'ai toujours voulu faire aussi des choses qui faisaient des passerelles avec l'art plastique, enfin, l'art contemporain. Et je me suis retrouvé dans des situations assez cocasses où, pour parler d'anecdotes, où, voilà, je présente un projet dans un centre d'art, un gros machin. Super, génial, trop beau ton truc. On finance, on produit et tout, et pour m'apercevoir au bout de 3 mois que le type n'avait pas compris le projet, en fait. C'est-à-dire qu'il avait compris autre chose, alors que je lui avais bien expliqué, etc., etc., et que en comprenant le projet, il se vexe, parce que il s'est un peu senti ridicule, et donc il annule le projet, quoi.
Ah oui.
Voilà. Par exemple, parce que c'est une vexation, il a dû se dire, je suis vraiment un débile, quoi. C'est puis donc ça a prouvé qu'il était débile, mais. C'était assez hallucinant, quoi. C'est-à-dire que, ouais, d'accord. Là, on s'est vu plein de fois, on a discuté des trucs, on a demandé des subventions, on a machin, mais au final, rien, quoi, voilà. Et ça m'est arrivé 2-3 fois, dans les trucs d'art contemporain plus classique, d'arriver avec des propositions qui sont, voilà, qui sont plutôt jolies, qui questionnent plein de trucs et tout, et de pas être compris, en fait. Et je comprends pas pourquoi, parce que c'est pas simplement des vieux, quoi. C'est même des, voilà, même des gens de 40 ans, je sais pas, c'est très 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 étrange. Par contre, il y a des spécialistes de l'art numérique qui eux vont aller vers, je pense à Marie Lechner par exemple, qui a écrit dans Libération, qui elle est très pointue et qui va aller vers des formes très presque trop extrêmes justement dans l'exposition. Mais au moins sur des thématiques intéressantes, quoi. Ça va pas être de l'esbrouve visuelle, quoi. Enfin voilà, quoi.
Et toi, plutôt personnellement, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment tu commences tes projets ? Comment ça arrive ? Comment un nouveau projet arrive ? Est-ce que tu es guidé par un désir formel ? Tu vois à peu près la tête que ça va avoir ? Ou au contraire, t'es pris dans une thématique ? Comment ça fonctionne pour toi ?
Alors, c'est très variable, ça a pas mal évolué avec le temps. Dans le temps, au début, j'avais des grosses thématiques, parce que c'était des thématiques par rapport au numérique. Donc j'ai commencé par les réseaux et les médias. Donc pendant plusieurs années, j'ai créé plusieurs médias, dont, comme je vous ai parlé, une web TV, etc. Ensuite, je suis passé par des projets plus intimistes. Quand j'ai fait la plateforme qui permet d'envoyer un mail dans le futur, 2067 email dans le futur, je l'ai fait moi-même. Je l'ai programmé moi-même, puisque je sais programmer, même si j'ai pas le temps de programmer tout le temps tous les projets, parce qu'il y a des trucs assez balèzes parfois que je veux faire et que voilà. Mais un projet comme ça, je l'ai fait chez moi, en 3 mois, je l'ai ficelé et je l'ai balancé sur le réseau. Je l'ai même pas exposé au début. C'est intéressant parce que justement, là, le réseau est l'espace de diffusion. Et là, j'ai tous les médias, alors je m'y attendais même pas, mais j'ai eu même le New York Times qui est tombé dessus, j'ai eu des articles dans le monde entier avec ce projet. Alors que j'étais chez moi tranquille dans mon lit à faire le truc, quoi.
Tu dis que tu le balances sur le réseau, il arrive où sur le réseau? Bah, concrètement, comment c'est... des gens de New York Times, de Libé, etc. arrivent là-dessus, puis après te prennent contact, ainsi de suite. Enfin...
Anecdote, un média en appelle un autre. Ça, vous savez, de toute façon. Mmh. Quand t'as un article dans Le Monde, en gros, t'as France Q, tout le monde t'appelle, et des fois, t'es repris par d'autres journaux, et tu le sais même pas.
Oui, mais le premier URL.
Le premier URL, c'est le... ça.
Le premier, l'origine.
L'origine. Parce tu le partages sur Facebook.
Ah, mais non, il n'y avait pas Facebook.
Non, mais même sans parler de Facebook, des réseaux sociaux, etc.
À l'époque, j'avais des listes de mails, et puis j'en envoyais... Bah, le truc, c'est que le truc que j'ai fait là, dont je vous ai parlé, la première télé sur Internet, mm-hmm. ça a fait beaucoup de, ça a été beaucoup médiatisé quoi. Et donc ensuite, j'avais une sorte de, c'est pas de la reconnaissance, mais en tout cas, j'étais voilà un peu visible.
J'étais observé.
J'étais observé. Donc dès que je faisais un truc, je l'envoyais dans ma liste de mails. C'était repris, c'était mm-hmm. machin. Après, j'ai fait une conférence ici. Géraldine Gomez, dans les années 2000, a compris l'importance des nouveaux médias. Donc, elle m'a invité pour parler de ces télés. Donc, voilà, c'est des confs. Il y a plusieurs personnes, etc. Donc, je sais pas comment la reconnaissance se fait. Elle se fait par, dans le temps. Là, on m'a encore contacté il y a pas longtemps, alors que ça fait 2-3 ans que j'ai pas fait grand chose, voilà, pour faire une conférence sur machin, parce qu'on avait mon boulot. Voilà, après, on est vu. Mais le New York Times, l'anecdote, c'est que je reçois un coup de fil en plein mois d'août, comme ça, d'une journaliste qui me dit, ouais, je suis le New York Times, ouais, ton projet de mail dans le futur m'intéresse et tout. Et je lui dis, mais vous avez où l'info? Parce qu'effectivement, bah, elle me dit sur Google. J'ai tapé art numérique, temps, machin, et d'accord. Je suis tombé sur ton projet.
Okay.
Elle me dit, est-ce que ton projet va tenir le coup? Parce que quand ça va sortir dans le New York Times, voilà. Et le New York Times, ça fait que j'ai eu mes 50 articles après.
Ok, oui, forcément.
Des trucs en Slovaquie, machin, enfin, c'était drôle, quoi.
Parce que c'était un peu ça ma question, c'est que tu fasses la tournée des galeries ou des cafés avec ta farde et des peintures pour aller rencontrer des gens, ou que tu sois tout seul sur Internet, le premier truc, il est là. Enfin, c'est
ça marche pas comment, comme ça,
comment,
quoi.
C'est ça, c'est... Quelle est la stratégie, enfin, la stratégie ou pas, mais comment tu fais exister un travail?
C'est très compliqué.
Comment tu le rends visible, peu importe son circuit de diffusion?
Alors moi, ce que je fais maintenant, mais parce que on est connu que le temps d'un vol d'hirondelle, hein, j'ai envie de dire, il y a un moment, j'ai arrêté pendant 2 ans, j'étais plus du tout connu, quoi. Moi, ce que je fais maintenant, bon, alors maintenant, il y a des appels à projets. Donc il y a des sites où voilà, on peut répondre à des appels à projets avec son projet. Il y a des bourses, d'ICREAM, machin, etc. Donc il y a plus d'endroits où on peut aller déposer son puis même maintenant il y a les réseaux sociaux. C'est vrai que maintenant il y a les réseaux sociaux, ça c'est assez nouveau entre guillemets, ça fait 4-5 ans où si on maîtrise bien Instagram, on gère bien son Instagram, mais c'est vrai dans tous les domaines en fait, j'ai envie de dire. Et je pense que les artistes d'aujourd'hui, moi je le fais très peu parce que voilà, bon, c'est pas trop ma came les réseaux sociaux, mais je le fais un peu. Mais je pense que, enfin, vous le savez mieux que moi, vous êtes plus jeune que moi, mais un Instagram bien ficelé dans le temps, il amène son audience, quoi. Non? Ouais, d'accord, ok. Vous voulez dire là, il y a cinq, il y a combien d'éditeurs là? Il y a 5 visiteurs.
On a entendu parler de ça, ouais.
Ouais.
Bah, ou alors les plus jeunes que vous arrivent bien à le faire, peut-être.
Quelle triste.
Ah, en fait, c'est ça, c'est vous, vous êtes encore la vieille génération finalement. Vous avez à moi bien à le faire. Non, mais après, c'est un réseau qui se crée avec des curateurs, avec des. Ça prend du temps, quoi. Moi, je pense qu'il faut 10 ans. Enfin, je dis 10 ans, mais je dis ça à mon fils aussi qui commence le cinéma. Je dis, faut pas rêver. Il faut 10 ans avant de percer un peu. Si tu t'es pas trop fâché avec tout le monde. Moi, j'ai tendance à me fâcher avec beaucoup de monde. Donc, c'est-à-dire que j'arrive et puis je redescends. Quoi. J'arrive au haut de l'escalier et puis paf. Moi, je m'en fous. Je fais mes trucs. J'ai pas envie de faire semblant, quoi. Voilà. Je suis honnête avec ce que je fais. Je pense que réussir dans l'art, c'est aussi ça, c'est être honnête avec ce qu'on fait, quoi. On peut pas faire pour quelqu'un ou en fonction de, voilà. Et c'est pour ça que j'aime pas les galeries, parce que les galeries, tous les potes qui sont allés en galerie sont bien fait défoncer, quoi. C'est-à-dire qu'on leur dirait super ton boulot, puis après, ah non, mais tu devrais en faire 2 fois plus, tu devrais un peu changer des trucs, tu devrais machin. Ils tiennent 2 ans, ils crament, quoi.
C'est rigolo, toutes ces questions-là, ça fait partie des questions qu'on a clairement noir sur blanc dans notre questionnaire. Comment tu fais, comment tu reçois, par exemple, qui pose un regard sur ton travail quand il est encore en gestation, quand il est à 2 doigts de se formaliser? Est-ce que t'as besoin d'un regard extérieur? Si oui, par qui, comment? Et est-ce que Est-ce que ça modifie aussi, finalement, ta production? Ou est-ce que tu te refuses à ça et tu te dis, non, attendez, les gens vous m'ont regardé, moi j'ai mon idée, elle est comme ça, elle sera comme ça, et point barre. Ou est-ce que c'est plus plastique que ça?
Bah, c'est une bonne question, mais c'est très variable. Selon les projets, en général, je mets 2 ans à avoir une idée. Qui est pour moi une bonne, qui a un concept un peu propre, nettoyé, où il y a toutes les problématiques. Donc c'est long déjà. Après, j'ai rarement travaillé à plusieurs. Je l'ai fait de temps en temps, mais c'est un peu sur des dispositifs qui sont pas mes propres projets, qui sont voilà des trucs de collectif. On va faire un truc ensemble sur une thématique, etc. Souvent, ça se passe mal quand même. Faut être honnête, pour plein de raisons différentes. Même si c'est intellectuellement on est proche, pour des raisons tout simplement de, on va se fighter sur un truc, on n'est pas d'accord, sur un emploi du temps, sur un caractère, sur des choses comme ça. Ce que j'ai essayé de faire il y a quelques années, j'ai voulu innover. J'ai dit le travail d'art numérique, il y a beaucoup d'ingénierie. Moi, je peux en faire un peu, mais il y a des, par exemple, j'ai fait un casque de réalité virtuelle hyper complexe connecté au cerveau. Bon, bref, des choses qui sortent de ma compétence. Ou en tout cas, moi, il aurait fallu 2 ans pour que je m'y remette. Donc là, j'ai travaillé avec des stagiaires. Les stagiaires, je me suis dit à un moment donné, le stagiaire fait les 3/4 du projet. Honnêtement, moi, j'ai l'idée qui est balèze, qui est compliqué. Là, je suis avec un type bien ou une nana forte qui m'apporte des choses. Donc, je me suis dit, je vais l'inclure en tant qu'auteur ou autrice. Donc, pendant quelques années, j'ai fait ça. C'est-à-dire, je disais, cette œuvre n'est pas que de David Guez, elle est de David Guez et machin, ou machine. Et on partageait les droits d'auteur, on partageait tout, en fait. Et je trouvais ça normal que dans le processus, alors qu'il y a plein d'artistes qui le font pas. Hein. Mais comme moi, je viens vraiment de la culture Internet ouverte, open source, machin, et ça, je me disais, OK, mon nom, ça va. Si je bosse avec d'autres gens, ils sont à hauteur égale et dans l'exposition, dans la diffusion et dans les revenus. Quoi, voilà. Parce que j'ai pas beaucoup de revenus aussi. Faut être honnête, quand on a un budget de 3 000-4 000 euros pour une pièce qui devrait coûter au moins 10 fois plus...
Ouais, ouais.
Et à un moment donné, le deal, c'est de dire, bah, si tu bosses avec moi, on partage quand c'est exposé, quand c'est diffusé, dans les musées, dans les centres, machin, etc. Et j'étais très content de moi de faire ça parce que je me suis dit vraiment, c'est normal, quoi. Enfin, comme dans le cinéma, il y a une part pour les monteurs, pour l'éclairage, pour tout ça. Souvent en art, c'est la figure de l'artiste. Je suis le meilleur, je suis le plus beau, je me la pète, et c'est des gens qui bossent derrière. Et en art numérique, il y en a des comme ça. Et il y en a des méchants, quoi. Ouais, il y en a des méchants, vraiment. Et moi, j'ai pas un ego phénoménal à me dire, c'est moi, il y a que moi, et c'est moi le plus important, etc. Si on bosse ensemble, c'est plus par rapport à mes idées, par contre, effectivement. Là, le seul truc, c'est que j'ai une idée, j'ai envie de la développer, et je trouve des gens avec qui je vais le faire. Je vais rarement dans l'idée de quelqu'un d'autre. J'ai pas le temps, en fait. J'ai trop de projets pour me dire, je vais aller sur le projet de quelqu'un d'autre, sauf si vraiment il est proche d'un intérêt que j'ai sur une question, etc. Enfin.
Ok. Et justement, en parlant de temps, c'est une question un peu bête, mais ça ressemble à quoi une journée de travail pour toi? Non mais tu vois, entre le partage, qui j'appelle, les dossiers à faire, à répondre pour une bourse, pour une expo, etc., ta prod, le contact, trouver du fric ou pas, bref, j'imagine que c'est tout ça que...
Ouais, c'est c'est un peu ce que je remets en question maintenant à 55 ans, c'est de me dire... On est hyper content quand on a l'idée, l'étincelle, le Eureka, et là c'est la grosse jouissance. Après c'est que de la prod, quoi. Et franchement, moi j'en ai marre, en fait. C'est-à-dire que j'en ai marre de faire de la prod, en fait. Et maintenant j'essaie de faire des projets plus petits, plus serrés, plus conceptuels, qui demandent pas trop de prod, parce que on perd un temps de dingue. Du coup ça coûte cher, du coup il faut trouver de l'argent, faut trouver des bourses, il faut trouver des gens, il faut bien s'entendre avec les gens, il faut travailler avec les gens, il faut trouver l'espace de diffusion. C'est énorme, en fait. C'est énorme. Je parlerai pas en termes de temps par jour. On est beaucoup comme ça, à être écœuré de faire des dossiers de subventions, de demandes de subventions, de demandes de diffusion, etc. Et surtout que maintenant, c'est devenu un peu biaisé, les bourses, parce que les bourses, en gros, ils vous disent faut avoir le lieu de diffusion avant d'avoir produit, quoi. Donc les jeunes, c'est même pas la peine, quoi, parce que... Enfin, je sais pas si...
Je sais pas, comment Thibaut...
Toi, t'en es là aussi dans...
Rebondis à ça
Je sais pas, non, je... Bah, c'est dur pour les jeunes, oui.
Quand
oui.
on débute, quoi. Non,
quand on commence, c'est une galère, c'est terrible.
Parce que c'est une boucle qui se met à la queue, quoi.
Oui, oui. Bon, bah, c'est un peu comme les gens qui prennent des stagiaires, à condition qu'ils aient déjà eu un stage avant.
Ouais, voilà, c'est ça, il y a un truc impossible.
Oui, tu vas jamais y arriver, bon, c'est un petit peu ça. Après... Non, bah, j'ai pas trop ressenti.
Mais c'est toi qui fais des projets, par exemple? C'est toi qui les produis? C'est toi
oui.
qui programme et tout ça?
Non, moi je programme pas. D'ailleurs, petit message à l'attention de ma stagiaire qui nous écoute.
C'est ça, voilà.
Voilà, c'est mort. Donc du coup.
Ouais, mais moi le problème c'est ça, c'est contraire avec des bouts de ficelle quand même, parce que moi j'ai eu plein de stagiaires avec qui ça s'est mal passé parce qu'ils étaient pas assez efficaces pour moi. Où je me retrouve, pour donner une autre anecdote, le jour du vernissage, quand même, à une heure avant, le stagiaire qui est encore en train de mettre les tournevis dans le truc, machin, gros vernissage avec... voilà, et ça marche pas, quoi. Là, tu deviens ouf, quoi. Et, ça, et vraiment, ça, je me suis dit, les stagiaires, si je les ai pas bien testés avant, mais c'est, des fois, c'est compliqué... Ça marche pas. Et maintenant, je travaille plus avec. Enfin, ouais. C'est très rare. Je préfère travailler avec des gens qui sont passionnés, qui sont hyper intelligents, qui ont. Et comme ils sont hyper intelligents, ils ont du temps pour faire d'autres trucs à côté de leur boulot. Et eux, ils vont te faire un truc en une heure que quelqu'un mettrait un mois à faire. Après, il faut les trouver. Mais une fois que tu les as trouvés, c'est plus fluide, quoi, quand même.
Mais du coup, est-ce que tu peux nous. Est-ce que tu es collectionné, toi?
Alors, j'ai un livre ici, mais c'est à la bibliothèque. J'avais fait une expo ici sur un disque dur en papier, donc c'était un gros bouquin de 0 et 1 qui codait le film de Chris Marker, La Jetée, et le Voyage dans la Lune de Méliès, les deux films, donc c'est deux gros livres, et ils les ont là, à la librairie là-haut. Et un centre à Belfort, qui est un centre d'art numérique, qui eux font de la collection. Mais moi, je suis pas dans le privé. Hein,
et t'es pas dans des collections privées, c'était.
Non, mais moi, je refuse. Non, mais moi, je refuse depuis le début. Mais parce que c'est mon truc web libre, indépendant, etc. Je crée plein de plateformes et je refuse d'être dans les galeries et d'être vendu à des collectionneurs qui sont. Enfin bref, je vais être un peu politique là, mais et puis ça a commencé à m'énerver. C'est-à-dire des gens qui blanchissent du fric pour avoir de l'art chez eux, qui vont vendre le double 2 ans après dans les circuits qu'on connaît, et j'ai pas envie d'être là-dedans. Donc moi, la liberté d'Internet, c'est de dire fuck à tous ces gens-là, même s'ils peuvent être très sympas. Et j'ai plein de copains qui exposent plus ou moins dans des galeries, mais ils galèrent en fait, ils vendent rien parce que l'art numérique ça marche pas en fait, c'est pas bien représenté, c'est tout. Enfin voilà. Donc moi, je veux même pas me poser la question, ça m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir un rapport avec le public très proche. Je peux faire des trucs à 50 balles que je vais vendre, des posters, des objets connectés, des trucs machin. Puis si c'est pas vendu, bah moi je préfère être payé dans les expos, avoir un cachet d'exposition,
donc
vivre avec les bourses, en tout cas voilà. En tout cas,
tu vis de ça quoi.
Ouais. Voilà.
Donc tu vis des bourses, tu vis des
bah, des cachets d'exposition. Moi je trouve que c'est normal quand on expose d'être payé. On paye bien les gens qui vont filmer, les gens qui font la lumière. Et ça c'est encore un gros sujet quand même parce que globalement l'artiste est quand même le dernier à être payé quoi. Et combien de fois, je pense que ça arrive à tous les artistes, on nous a fait le coup de dire « mais on ne te paye pas parce qu'on t'expose et c'est bien pour toi ». Alors quand tu as 25 ans, tu acceptes parce que tu n'as rien. Et des fois, tu acceptes aussi à 50 ans parce que, bah voilà, mais c'est un scandale en fait. C'est un scandale surtout quand c'est des institutions qui, eux, sont payées, ont des budgets. Alors, ils n'ont jamais assez d'argent hein, pour payer, évidemment. Bon, ça, c'est possible, hein, mais même pour faire une conférence, on doit être payé. Enfin, je sais pas. Il y a des pays où il y a des syndicats. Il y a un syndicat en France, hein, la FRAP, qui a même fait des contrats. Voilà. Mais par exemple, au Canada, au Québec, il y a un taux horaire minimum. En tout cas, minimum. Et ça, c'est important pour moi.
Et ça suffit? T'es pas obligé de faire de l'enseignement à côté ou des trucs comme ça? C'est-à-dire que tes honoraires sur les expositions suffisent pour vivre pour toi?
Bah, ça dépend de mon énergie. C'est-à-dire qu'il y a des années où j'y arrivais. Et là, depuis le confinement, c'est plus dur.
Ouais.
Il y a eu un trou pendant le confinement, mais j'ai beaucoup été prof aussi. Ouais.
D'accord.
Mais quand j'avais 30 ans, j'étais pas mal prof, quoi.
Ok.
Au début, j'étais, je donnais des cours à droite à gauche, j'ai fait pas mal de workshops dans des écoles, okay. dans des trucs, pour équilibrer. Après, c'est de toute façon pas la richesse, hein. Mais je connais personne autour de moi, pourtant, et je connais beaucoup d'artistes, à part ceux qui sont dans des très grosses galeries et qui vendent, effectivement, on est tous quand même à, ça va de zéro à, voilà, un salaire un peu normal, quoi, mais c'est compliqué, quoi, de toute façon. Surtout si on vend pas.
Oui, mais il y a aussi un truc, c'est-à-dire que c'est effectivement extrêmement précaire. Et on se rend compte que les artistes ont tous des systèmes, des espèces de systèmes D, des détournements, des, enfin voilà, on se débrouille au Smith.
Détournement, je suis pas sûr que ça soit le mot.
Non, c'est pas ça. Pardon. Non, mais par exemple, Smith a mis en place une espèce d'assurance où il qui lui permet de tu vois, récupérer de l'argent et puis finalement de continuer de vivre ou de produire. Je raconte mal, mais il a bien raconté quand on l'a invité.
Oui, bien sûr. Après, il y a bien sûr. Il y a de l'argent qui vient d'ailleurs.
De l'argent qui vient d'ailleurs.
À un moment donné, ouais. On est effectivement obligé, quoi. Moi, c'est vrai que les cours, ça m'a assuré plusieurs années de tranquillité entre guillemets. J'ai fait pas mal de sites web aussi. Alors moi, l'avantage, c'est vrai qu'aussi, faut se rappeler de ça. C'est que quand je suis arrivé à Paris, je traînais avec des gens qui sortaient des Beaux-Arts. Ils bossaient chez McDo. Moi, je faisais de l'informatique. Mais l'informatique, c'est pas payé pareil, quoi. Donc moi, je bossais une semaine par mois, j'étais tranquille, et eux, ils bossaient à plein temps, ils se faisaient chier, et il y en a qui ont abandonné l'art à cause de ça. C'est un vrai problème, effectivement. Moi, j'ai eu la chance d'être aussi dans l'informatique pour faire des coups où t'es hyper bien payé, tu bosses pas beaucoup, et t'as beaucoup de temps, quoi. Voilà, ça, c'est vrai que c'est l'avantage, quoi. Je l'ai beaucoup fait, je le fais plus maintenant, j'ai plus trop besoin, mais dès que j'en ai besoin, je le refais, quoi. Enfin, parce que je continue à quand même être un peu au point sur les nouvelles techno, surtout sur mes projets. Enfin, là, je travaille avec les IA en ce moment. Bon, bah voilà, j'ai pas trop de difficultés à me foutre dedans à fond, à apprendre les trucs pour programmer, pour machin. C'est pour ça que j'ai moins besoin de prod aussi, parce que je peux gagner beaucoup de temps par moi-même, quoi, en faisant les choses moi-même, quoi.
Mais t'as pas un deuxième boulot en même temps?
J'ai plus. J'avais. Je suis à la retraite là maintenant. Mmh. Je suis vieux. Hein.
T'as un atelier?
Non, je n'ai pas besoin d'atelier. J'ai un ordinateur. J'ai pas mal d'objets chez moi et tout. Mais à chaque fois, j'ai travaillé en réseau en fait.
D'accord.
Donc on allait travailler quand j'ai fait un casque en réalité virtuelle. C'était un gros machin. On travaillait dans un atelier pendant 3 mois et puis. Mais j'ai pas d'atelier perso, quoi.
D'accord.
J'ai pas besoin, en fait.
T'as un stock?
Bah ouais, c'est ça.
Ouais, j'ai un stock chez moi, ouais. Mais justement, je fais pas de trop gros objets pour ça, parce que c'est compliqué. J'aimerais bien...
Bah, j'ai vu qu'il y avait, par exemple, une stèle gravée. Ça fait partie des objets que t'as en stock chez toi?
Ouais, j'ai une stèle sur laquelle est gravé le cri de l'ours brun, qui a disparu dans les Pyrénées en binaire, en 0-1.
Oui, mais parce que voilà, concrètement, j'imagine que ça prend de la place.
Non, mais c'est pas une grande stèle, hein. C'est un A3, quoi. C'est lourd, mais c'est pas.
D'accord, oui, t'as pas besoin.
Non, mais c'est vrai que je me suis.
T'as pas des sets d'expo qui sont chez toi,
adapté.
Etc.
Je me suis adapté. Ça, par contre, c'est vrai que je me suis. Ça a été un truc à prendre en compte dans mes productions, de dire je fais pas des trop gros trucs. Je vais pas faire des trucs voilà, parce que j'ai pas non,
pas envie de t'encombrer avec une logistique derrière.
Ouais, c'est vrai que je suis en fait, je suis quand même assez informaticien en fait. C'est-à-dire que je suis quand même dans le truc de dire plus c'est petit, plus c'est invisible, mieux c'est, quoi. Donc
est-ce que tu participes à des vernissages? Est-ce que tu es en représentation? Est-ce que tu vas voir les événements? Est-ce que tu traînes dans le coin? Est-ce que tu es dans le milieu? Est-ce que tu essaies de rencontrer les gens? Est-ce que tu t'en fous? Raconte un peu.
Alors, mes vernissages, je déteste. Je déteste être en vernissage pour moi. C'est très, 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 très pénible pour moi. Parce autant j'aime bien faire des conférences et parler à un public et tout ça, mais dès qu'il s'agit de vendre, enfin moi j'ai toujours l'impression que je dois vendre mon truc, quoi. Et je déteste vendre. Donc quand je suis avec mon œuf comme ça à une table et puis voilà, et les gens viennent voir, ils me font ah super votre truc et tout, vous pouvez m'en parler? Bah non, je peux pas t'en parler, j'ai pas envie de t'en parler. Ou alors oui, une fois, deux fois, mais pas 20 fois dans la soirée, quoi. Donc, vaut mieux qu'on mette des médiateurs à ma place parce que je peux devenir de la soirée. Je peux devenir un peu méchant, quoi, un peu ours, quoi. Alors après les vernissages, oui, j'y allais beaucoup à une époque, mais vraiment beaucoup. Je faisais partie d'un réseau qui existe toujours. Où, bon, après c'était le réseau des vernissages, donc c'est des listes de vernissages et hop, on y va à gauche. Je le fais beaucoup moins, je ne vais qu'au vernissage des copains, quoi. Non. Je préfère aller voir les expos après. Non, puis j'en ai rien à foutre par rapport voilà, au contact et tout.
Mais ça a été important pour toi à un moment pour justement réseauter, pour que ton nom circule, pour
non,
qu'on puisse
non,
te rappeler
non,
éventuellement. Non.
Non, parce que je pense que c'est important, mais pour moi, non. Parce que j'aime pas ça, en fait.
En tout cas, tu t'y es pas plié.
Bah, j'allais au vernissage pour me bourrer la gueule, pour voir des potes et puis pour bien me marrer. Alors des fois tu rencontres des gens quand même, c'est vrai hein, c'est vrai que ça marche comme ça aussi. C'est vrai que si on te voit, c'est plus facile qu'un mail ou un tweet ou un machin. Et c'est vrai que parfois ça se passe quand même comme ça, quoi. Après moi j'ai tendance à considérer que c'est peut-être un peu prétentieux, mais si ton travail est bon et il est pertinent, à un moment donné s'il est visible à certains endroits, t'as pas besoin de ça, quoi. Mais en même temps, c'est pas vrai. En même temps, je pense que être vu, en fait, c'est même pas être vu pour la première fois, c'est être vu parce que on t'a pas vu depuis longtemps. Puis du coup, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu deviens, t'es en train de faire quoi en ce moment? Ah bah tiens, bah moi je fais une expo sur cette thématique, ton truc m'intéresse, effectivement. Donc c'est important d'être vu quand même, effectivement. Ouais. Mais moi, c'est vrai que ça fait quelques années que je m'en fous, en fait. Mais c'est pas que je m'en fous par snobisme, c'est que j'ai jamais vraiment aimé ça, et puis je fais moins la fête.
Et la nécessité se présente moins aujourd'hui, peut-être, aussi.
Bah là, je suis encore allé à un vernissage il y a pas longtemps, une galeriste qui vient d'arriver, qui est hyper gentille, on en a beaucoup discuté, elle connaissait mon boulot, elle aime bien mon boulot... Mais je suis pas en demande, quoi. Donc en fait, j'ai pas. C'est un privilège hein, de pas être en demande, parce que il y a une époque, je faisais 15 expos par an. Maintenant, je préfère en faire une tous les deux ans. Mais ça, c'est un truc d'âge, je pense. Je sais pas. C'est un truc où je préfère prendre mon temps. Je préfère faire les choses bien. Je préfère. Et puis j'ai vécu, pour parler d'autres anecdotes, des modes de production exposition hyper tendus, quoi. J'ai fait avec la Gaîté Lyrique, quand elle a ouvert le nouvel espace qui est là, quoi. J'ai fait une horloge à remonter le temps, une énorme prod hyper complexe à faire, avec des ingénieurs, des designers, des machins, qui a mis 2 ans à se faire. Et le vernissage était la nuit d'avant le vernissage, ça marchait pas, quoi. Et c'était un stress pas possible. Et je suis arrivé à la conférence de presse. J'avais pas dormi, hein. On avait terminé à 5h du mat, je suis passé chez moi à prendre une douche, je suis revenu, conférence de presse pour montrer le truc, alors je suis devant l'horloge comme ça, et je me retourne, j'avais du sang qui coulait, j'étais épuisé, quoi. Tout le monde me dit, j'ai le sang, quoi. Et je me suis dit, mais plus jamais une prod avec une date d'expo fixée sur des grosses prods, quoi. Des petites prods, ça va, mais sur des grosses prods, je me disais plus jamais, c'est trop stressant, quoi. Et le coup de la stèle en pierre, c'est que aussi dans les nouvelles technologies, dans le numérique, il y a beaucoup de matériel, il y a beaucoup de choses fragiles, il y a beaucoup de choses. Et il y a un moment donné, je me suis dit, je vais faire des objets d'art plastique, quoi, mais qui parlent du numérique. Et donc, j'ai fait des pierres, j'ai fait des stèles en aluminium, j'ai fait des livres, j'ai fait des choses où là, il n'y avait pas d'électricité. Et ça, j'étais trop content, quoi. De me dire, j'arrive avec mon truc, je le pose et c'est basta, quoi. Et ça marche. Ça marche parce que voilà, c'est. D'accord. Ça m'a fait beaucoup de bien.
Est-ce que tu peux nous raconter le cycle de présentation pour un travail? Donc, tu disais que ça se faisait sur 2 ans. Comment ça se passe? Du coup, tu as l'idée, tu travailles dessus, tu la présentes à peut-être des commissaires.
Je fais un texte.
Tu fais un texte.
Moi, j'écris beaucoup et j'écris même des livres maintenant, effectivement. Donc, je suis vraiment dans l'écriture.
Okay.
Pour moi, c'est super important, l'écriture. Et c'est pas mal pour avoir des subventions. Parce que savoir faire un dossier, je ne savais pas les faire au début, mais voilà, j'ai appris et je sais bien les faire maintenant. Et je vais vite et je sais bien écrire sur mon travail. puisqu'il n'y a pas de critique qui écrit sur mon travail, j'écris moi sur mon travail. Et ça, c'est super important, c'est-à-dire qu'une fois, bon, on peut faire des photos, on peut faire des vidéos, des trucs et tout, mais un dossier pour une subvention, ça, c'est de l'écriture, quoi. C'est savoir raconter l'histoire du projet, savoir ce qu'on va en faire, et ça, c'est super important. Donc, en général, effectivement, une fois que l'idée est fixée, j'écris une histoire autour de l'idée, quoi. Et ensuite, je passe en production, qui met en général 2 ans aussi, hein. C'est... Ah ouais.
Et du coup,
en fait, c'est pour ça que j'ai plusieurs idées en même temps, plusieurs projets en même temps. Et en fait, le piège, c'est de pas se fourrer dans un projet aussi, un seul projet, quoi. Je l'ai remarqué sur 20 ans. Quand on se met sur un seul projet, donc on met tout son affect aussi, quoi. Et là, c'est mortel si ça marche pas, parce qu'on a perdu, on a l'impression qu'on avait perdu 2 ans de sa vie. Alors que lancer plusieurs projets en même temps, même un peu en décalé, ça permet quand même de dire, ah bah, celui-là, il avance, parce que celui-là, il avance pas pour plein de raisons. Voilà. Et ça, c'est plutôt bien, quoi, en fait.
Il y a des projets qui foirent, plein.
Ils peuvent foirer dès le départ, c'est-à-dire qu'on a une note d'intention et on trouve pas les subventions. Parce que faut aussi créer un projet à l'échelle de ce qui est possible, hein, parce qu'évidemment, on peut toujours dire, ah, mais je vais faire un truc énorme qui va révolutionner le monde. Et j'en ai des projets comme ça. Des trucs, on dit waouh, mais waouh, quoi. Sauf que c'est pas faisable au final. Donc il y en a qui foirent, à différents. Le plus chiant, c'est quand ça foire pas par sa faute, quoi. Ça en fait, c'est horrible, parce qu'on est dépendant aussi de gens, des institutions, des subventions, des choses comme ça. J'ai été sur un projet pendant 2-3 ans qui a jamais abouti, en fait. Et il y a quand même des directeurs de centres d'art qui sont des vrais enfoirés, quoi. C'est-à-dire que c'est très politique, tout ça. Et il y a vraiment des enfoirés, en fait. Mais comme dans tous les métiers, quoi. Et c'est pas ceux qu'on voit le moins, hein, les enfoirés. Hein. C'est souvent ceux qui réussissent, quoi. Vous avez parlé d'une biennale tout à l'heure. Et en fait, c'est des gens qui vont vous faire croire des choses. Mais en fait, ils vous utilisent parce que vous êtes dans leur ligne pour avoir tel lieu. C'est des gens qui sont un peu dominants dans leur domaine, qui gèrent toutes les subventions. C'est un peu le fait du prince, quoi. Et ça, c'est terrifiant, quoi. Et ça, c'est détestable. C'est-à-dire qu'on se retrouve quand même dans des configurations où on a affaire à quelqu'un, une personne, qui décide de tout, en fait, et qui décide de tout pour vous, quoi. Et qui peut vous dire, bah non, bah toi, vas-y, tu dégages, toi, tu viens, toi, machin. Alors, et ça, il y en a. Et ça, il faut se méfier. Moi, je suis assez naïf, je suis assez enthousiaste quand j'ai un projet. Mais je peux vous assurer que sur 20 ans, 25 ans, je me suis pris des gamelles avec des gammes, mais vraiment dégueulasses, quoi. Mais dégueulasses à une puissance infinie, quoi. Donc, il faut se protéger, mais c'est hyper dur, hein.
Moi, je voudrais du détail quand même. Enfin, je veux dire.
Non, je vais pas lâcher les noms.
Non, mais sans lâcher les noms, mais.
Non, c'est-à-dire que des gens vous disent, ah ouais, ton projet est génial. Nous, on est à fond dessus à 100%. On va t'aider à avoir les subs, à avoir les trucs, machin. Tu peux même mettre notre nom en référence, machin. Et puis, au final, t'as pas du tout le truc. Et tu comprends après que c'est pas que tu n'as pas le truc parce que, au final, il a pas aimé le projet. C'est parce que t'es copain avec machin et ils se détestent. Et donc, tu vas être l'enjeu d'un truc, mais qui te dépasse complètement. Mais vraiment. Alors, comme en plus, moi, je crée des plateformes, je crée des sortes de zones d'autonomie comme ça, où on est entre artistes, on est indépendants, je propose des services aussi, c'est-à-dire que je fais des start-up qui avec 0 euro, quoi, enfin, des trucs qui créent une vraie... Par exemple, j'ai fait une plateforme sur Internet de résidence d'artistes chez l'habitant. Donc, j'ai fait le site où les artistes peuvent s'inscrire, où les gens qui ont des habitations peuvent s'inscrire et ils peuvent se rencontrer et il y a des résidences chez les gens et il n'y a pas d'argent, il y a un échange. Et moi, c'est ces idées-là qui me plaisent, en fait. Avec Internet, c'est pas de faire du Facebook ou du Twitch, quoi. C'est de dire, non, mais je dis pas ça pour...
Molo.
Ouais, fallait bien un peu provoque, quoi. Je voulais voir ta réaction, là. Ça va, il est encore vivant. Non, mais c'est-à-dire que voilà, il faut trouver des modèles alternatifs et j'en ai fait plein et ça gêne, en fait, un peu, des fois, des gens qui ont le pouvoir, en fait. Voilà. C'est tout. Je peux rien dire d'autre, mais à Paris, ouais, il y en a. C'est du lourd à Paris, ouais. Je pourrais vous dire les noms après, si hors antenne.
On les connaît.
Petite question, est-ce que est-ce que des fois tu te lances dans de la prod sans rien, c'est-à-dire sans avoir de promesses ou de pistes pour une subvention, etc. Voilà, ton économie de production en général, elle n'attend pas nécessairement tout le temps.
Sauf sur des gros projets, mais justement, si tu scales ton projet pas trop gros. Et puis je vous dis, cette idée de travailler avec des gens qui sont partenaires et qui sont co-auteurs ou autrices, ça en fait c'était génial parce que du coup, là moi ça m'a ouvert plein de trucs. Je me dis, mais alors je vois quelqu'un qui est intéressant, qui aime bien mes projets, ben, on va travailler ensemble et on fait le truc et après on verra.
Et après on verra bien, ouais.
Il y a des projets qui ont tourné pendant 3 ans, qui ont fait un carton, il y a des projets qui ont été exposés 3 fois. Hein. Bon après ça c'est le jeu. C'est le jeu aussi de la façon dont on expose aujourd'hui, de la façon dont on gère un lieu. Donc
bah oui, puis
ça va vite.
Comment tu sécurises ou pas ton équipe financière, etc. Parce qu'il faut pouvoir se le permettre.
Ouais.
Tu vois, si tu sais que tu as besoin d'un peu de bourse, d'expo, d'honoraires, d'exposition, etc. pour bouffer.
Bien sûr.
Bon, bah.
Oui, mais c'est qu'aussi les lieux maintenant, ça va très vite, quoi. C'est un peu comme le cinéma, quoi. On met 5 ans pour faire un film, il reste 2 semaines, quoi. Mmh. Bon, c'est pas à ce niveau-là en art, parce qu'il y a beaucoup de festivals en France, à l'étranger, donc on peut essayer de faire des réseaux un peu, voilà. Mais ça change ça aussi, tu vois. Faut aussi prendre ça en compte. Et, voilà. Après, il y a des gens qui font un projet toute leur vie, j'en connais, et qui le défendent toute leur vie, quoi. Mmh. Et c'est hyper honorable. Moi, je peux pas, j'ai trop d'idées, j'ai envie de trop faire de trucs. Il y a une époque, je faisais au moins 1 ou 2 projets par an en prod, quoi. Mm. Donc, voilà, ça. Fallait que ça aille vite et ça tournait. Donc, effectivement, il y a des projets qui passaient à la trappe, des trucs moins forts, tout. Ouais.
Si tu avais un conseil à donner à un jeune artiste qui sort de l'école, ce serait quoi? C'est quoi le truc pour toi, là? Le secret?
Bah, vraiment, le secret, c'est de faire ce que t'aimes et jamais autre chose. En tout cas, dans l'art, enfin, dans ta pratique. Et de jamais lâcher, quoi. C'est-à-dire que moi, là, par exemple, depuis 2 ans, je commence à écrire. Donc, nouveau domaine. C'est-à-dire que j'ai toujours écrit, mais là, je fais des romans, des livres. Et là, je me dis, je connais plein d'écrivains, de potes et tout, mais je connais pas du tout ce milieu. Et là, je suis débutant au niveau zéro. Et j'adore, en fait. Bah, je fais quoi? J'envoie mes bouquins par la poste ou par email, quoi. Et je sais pas du tout ce qui va se passer. Mais je me dis, parce que je suis dans cette position de l'artiste débutant, du coup, de l'auteur qui est débutant, je me dis, mais en fait, j'adore tellement ce que je fais, que même si je suis pas diffusé au seuil ou du POL ou machin, mais je continue parce que j'aime ce que je fais, quoi. Voilà. Et je pense qu'il faut jamais arrêter. Je pense que maintenant, il faut s'associer entre artistes. Maintenant, enfin, toujours, j'ai été dans plein de collectifs jeunes. On appelait ça des squats ou des assos, mais maintenant c'est des collectifs, mais c'est pareil. Il faut s'associer, il faut pas lâcher, il faut produire, il faut faire des choses à sa mesure, et il faut continuer. Et il faut pas s'arrêter au premier coup dur, quoi. Mm-hmm. Parce que ça marche au bout d'un moment. Je sais pas comment dire. Si on est persévérant, si on est cohérent sur ce qu'on fait, parce que c'est aussi ça le risque, c'est que on fasse des trucs qui sont pas. Je pense qu'il y a un truc de vérité quand même dans l'art, c'est que si on n'est pas sincère par rapport à ce qu'on fait, bah, au bout d'un moment, ça marche pas, en fait. Mmh. Et moi, sur 25 ans, je trouve que j'ai une cohérence et j'ai toujours eu des thématiques, des problématiques que j'ai tenues parce qu'elles m'intéressent, quoi. Mmh. Voilà. Mais donc, faut rien lâcher, quoi. Ou alors il faut tout lâcher et puis aller à la campagne et se foutre entre potes et faire ses trucs et mettre un gros fuck à tout le monde, quoi. Ça marche aussi, hein.
Ou alors faut être hyper habile dans la lecture de ce qui fonctionne et dans le temps et faire que des coups à chaque fois.
On parle pas de
carrière et d'intégrité et de tout ça.
Ah ouais,
on
voilà,
parle
là,
juste
on est d'accord,
de faire
on est d'accord.
Des coups.
Le cynisme, ça marche en art, ouais, ça marche. Mais il faut être cynique, moi je suis pas cynique. Mais si on est cynique, ça marche, hein.
Attends, on va laisser avant de.
On va se quitter sur l'annonce audio.
On va se quitter sur l'annonce de la BPI, tu vois.
Du train en arrivée de gare du centre Pompidou.
On s'arrête là-dessus de toute façon.
Bah, je pense, moi j'ai pas d'autre.
Okay. Tu voyais quelque chose que tu voulais aborder?
Bah non, mais je sais pas, je vous connais pas.
Bah d'accord.
Je vais pas vous aborder, je vous connais.
Bon, écoute, David, merci beaucoup. Si on veut te suivre sur Instagram, on va sur l'arrobase David Gaze 2067.
Et mon site surtout, c'est mieux.
Et son site, alors c'est quoi ton site? Alors c'est
davidgaze.org.
Non, gaze.org. G-U-E-Z.org.
Gaze.org, voilà.
Mais Insta, oui, je mets pas grand chose, je mets que les trucs. Mais ouais,
D'accord.
Pour ceux qui s'intéressent au projet Sans Titre, hein, vous pouvez suivre notre Instagram @sanstitre.cast. Un grand merci au Centre Pompidou qui nous a accueillis aujourd'hui.
Merci aussi à Cyril, Lola pour la régie et à Olivier Schlobert pour le générique. Bisous et à bientôt.